à tous et bienvenue. L'émission Compte-Gouttes se confine, mais se transforme. Je suis Caroline et je vous raconte une ou deux histoires tous les jours à 14h30 sur Radio Campus Grenoble 90.8. Profitez-en pour endormir vos enfants, augmenter le sonotone de belle-maman, profitez-en pour rêver et voyager. Il n'y a pas d'angoisse à avoir, on ne sera jamais à court d'histoire, car les contes, c'est comme l'eau de la mer. Tu peux en prendre autant que tu voudras, jamais le niveau ne baissera. Aujourd'hui, on renverse, on secoue, on dépoussière les histoires avec ce recueil de contes qui s'intitule « Les contes à l'envers », écrit par Philippe Dumas et Boris Moissard. Voici l'histoire du petit chaperon bleu marine. Personne n'ignore, bien sûr, l'histoire du petit chaperon rouge. Mais connaît-on celle du petit chaperon bleu marine ? Il faut savoir que le célèbre chaperon rouge n'a pas éternellement continué d'être petit, mais que cette sympathique fillette, après ses démêlés avec le méchant loup, a pas mal grandi et est devenue une belle jeune femme qui s'est mariée et a eu un enfant, une fille nommée Brigitte, puis qu'elle s'est trouvée elle-même grand-mère quand cette Brigitte, à son tour, s'est mariée, et oui, ainsi va l'existence, et qu'elle vit encore aujourd'hui à Paris, dans le 13e arrondissement, au rez-de-chaussée d'un immeuble situé dans une rue sombre. C'est une gentille vieille dame qui habite seule et qui ne fait plus parler d'elle, mais qui a encore beaucoup d'années à vivre car elle se porte bien. Et elle est très heureuse, partageant son temps entre le tricot devant sa fenêtre, la lecture des magazines et la causette avec les autres vieilles dames du quartier à qui elle donne des détails introuvables dans les livres sur sa célèbre aventure du temps jadis. Mais voici une autre aventure qui vient de lui arriver tout dernièrement par la faute de sa petite fille, Laurette, qu'on surnomme le petit chaperon bleu marine, à la fois en l'honneur de sa grand-mère et aussi à cause d'un duffelcoat de cette couleur achetée au solde aux Galeries Lafayette et que sa maman, Brigitte, l'oblige à mettre chaque fois qu'elle sort pour qu'elle n'aille pas attraper froid. Il y a quelques mois, donc, la maman de Laurette lui a demandé d'aller porter un paquet de pelotes de laine chez sa grand-mère, l'ex-chaperon rouge, à ce rez-de-chaussée du 13e arrondissement, à l'autre bout de Paris. Elle lui a bien montré sur un plan le chemin à suivre et a pris la précaution de lui faire répéter plusieurs fois le numéro de l'autobus dans lequel monter, ainsi que l'arrêt ou descendre. Et Laurette s'est mise en route, non sans avoir embrassé sa maman et bien entendu enfilé son fameux duffelcoat dont elle a rabattu le capuchon. Elle a tourné à droite sur le boulevard Boris Vian, puis elle a traversé et pris en face la rue Suzanne Laloux. Enfin, elle a tourné à gauche dans l'avenue du Général Batavia suivant les indications maternelles. Et, après 5 minutes de marche, elle est parvenue à la station de bus et s'est mise à attendre sagement sur le bord du trottoir, bien à sa place dans la file. Quand le bus est arrivé, elle est montée dedans et a tendu ses 2 tickets au conducteur qui les a lui-même introduits dans la fente, car les conducteurs d'autobus, voyez-vous, sont gentils et secourables. Ils viennent en aide aux enfants qui n'ont pas l'habitude de voyager seuls.
« Où descend la petite demoiselle ?»«
À la station de gare d'Austerlitz, » a répondu Laurette.
Mais comme le conducteur avait fort à faire avec son volant et ses manettes au milieu du trafic, il l'a bientôt oublié. Et Laurette est descendue à la station Jardin des Plantes. Laurette, j'ai omis de le dire, depuis son plus jeune âge, a toujours été très envieuse de la réputation de sa grand-mère dont tout le monde connaît les exploits et les raconte aux enfants du monde entier depuis 2 générations. « Pourquoi moi aussi ne deviendrais-je pas quelqu'un de célèbre » s'est-elle toujours demandé. Ayant réussi à pénétrer dans la ménagerie du Jardin des Plantes à la faveur d'une seconde inattention de la caissière rêvant à ses amours, Laurette s'est mise à la recherche de la cage au loup. Et quand elle l'a eu trouvée, elle s'est mise contre les barreaux et a appelé le loup qui était en train de se reposer devant sa niche en attendant sa collation de 5 heures.
« Psst ! Bonjour, loup ! C'est moi, le petit chaperon bleu marine ! Devine où je vais de ce pas ?»
Le loup a dressé une oreille, assez surpris qu'on lui adresse la parole.
« Je vais chez ma grand-mère lui porter ce paquet que tu vois dans mon panier. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet ? Ce ne sont pas des pelotes de laine, comme le dit ma maman, mais une 12aine de petits pots de beurre, figure-toi. »«
Ah ouais ? Et alors ?»
a répondu le loup, qui se trouvait être l'arrière-petit-neveu de celui qui, dans le conte de Perrault, mange la grand-mère et prend sa place au lit, et en même temps que le lointain descendant de celui qui, dans la fable de La Fontaine, fait des misères à l'agneau. Donc, pas n'importe quel loup.
« Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Tout ce que je demande, c'est qu'on me laisse dormir et qu'il soit bientôt 5 heures pour qu'on me remplisse mon écuelle. »
Ce loup,
qui avait beaucoup lu de livres pour tuer le temps dans sa cage et qui était raisonnable, ne tenait pas à terminer comme son arrière-grand-oncle dont elle savait l'histoire par cœur. Il se méfiait comme de la peste de tout ce qui ressemble à un chaperon, de quelque couleur qu'il soit, même venant des Galeries Lafayette, et surtout porté par une petite fille. Mais Laurette ne s'est pas laissée démonter par cet accueil revêche. « Mon vieux loup, » a-t-elle dit, « en réalité, ta place n'est pas dans cette cage-ci, mais dans celle-là, là-bas, avec les ours, car tu en es un, mais ça ne fait rien. Voici ce que je te propose. Tu dois avoir envie de te dégourdir les pattes, non ? Eh bien, faisons la course. Toi et moi, jusque chez ma grand-mère, on verra bien qui arrivera le premier. » Laurette a donné au loup l'adresse de sa grand-mère et celui-ci, qui s'ennuyait comme un rat mort sur les 5 mètres carrés de sa cage depuis si longtemps et qui brûlait de voir du pays, a bien pesé le pour et le contre et finalement a répondu « Chiche !» Laurette a donc ouvert la cage et les voilà partis tous les deux, chacun de son côté et chacun à son train. Après avoir compté 3, Laurette a pris tranquillement le départ, laissant le loup démarrer au galop et se perdre loin devant elle. Elle était bien contente. Le plan qu'elle avait conçu marchait comme sur des roulettes. Évidemment, elle était un peu embêtée pour sa grand-mère qui allait être mangée, mais quoi ? Se disait-elle chemin faisant. On ne fait pas d'omelette sans classer deux. À son arrivée, elle a sonné et on lui a répondu d'entrée que le verrou n'était pas mis. Elle a poussé la porte. Dans le lit, il y avait quelqu'un de tout à fait semblable à sa grand-mère. Même cheveux blancs rassemblés en un petit chignon, même lunettes, même chemise de nuit en finette et même liseuse de cachemire. Le déguisement était très réussi. N'importe qui s'y serait laissé prendre. Mais Laurette reconnaissait fort bien le loup. Néanmoins, la faisselle qui ne s'aperçoit de rien. « Bonjour mémé, j'espère que tu vas bien. Maman m'envoie te porter ces petits bouts de beurre que voici au fond de mon panier. Elle a dit que ça te ferait sûrement plaisir et que ça t'éviterait une course chez la crémière. « Tu es bien mignonne, ma petite, je te remercie beaucoup. Tu embrasseras bien ta maman pour moi. J'étais en train de me reposer et je m'apprêtais à prendre une tasse de chocolat. Veux-tu regarder la télévision avant de t'en retourner ?» Le loup se révélait un imitateur remarquable, Laurette n'en revenait pas. La voix de sa grand-mère était contrefaite à s'y méprendre. Mais ce n'était pas le moment d'applaudir, il fallait continuer à jouer le jeu. « Oh oui, merci mémé. Et j'aimerais bien, pour la regarder, que tu me permettes de venir dans le lit m'étendre à côté de toi. Si tu veux, mais enlève tes chaussures. » Laurette a mis la télévision en marche, après quoi elle a ôté ses chaussures et s'est glissée dans le lit à côté de sa grand-mère, ou plutôt du loup. Mais au moment où celui-ci se penchait pour l'embrasser, elle a fait un bond en arrière et, tirant de dessous les pelotes de laine, le grand couteau de cuisine qu'elle avait pris soin d'apporter, « Suffit, loup » a-t-elle fait d'un ton sec. « Je sais bien que c'est toi, finis la comédie. Je ne suis pas aussi bête et naïve que le petit chaperon rouge. Allons, debout, et plus vite que ça. Direction le jardin des plantes. Nous retournons au point de départ. » Et Laurette, sous la menace du grand couteau, a conduit sa grand-mère jusqu'au jardin des plantes sans rien vouloir entendre des protestations de la vieille dame qui s'inquiétait en outre de son poste de télévision qu'on avait omis d'éteindre. Au jardin des plantes, Laurette a enfermé sa grand-mère dans la cage au loup restée ouverte. Puis elle a couru partout en faisant beaucoup de tapage pour alerter les gardiens, disant que le loup venait de manger sa mémé. Les gardiens sont aussitôt accourus, très inquiets à la fois pour la victime, sans doute déjà mise en pièces de façon irrémédiable, mais aussi pour la bête qui avait le foie délicat et ne manquerait pas de se ressentir d'un tel écart de régime. Force leur a été de reconnaître qu'il n'y avait dans la cage plus aucune trace de loup, mais à la place une vieille dame en chemise de nuit de finette et liseuse de cachemire, visiblement ennuyée de ce qui arrivait et impatiente qu'on la délivre. Le loup, quant à lui, se trouvait déjà à des kilomètres de tout ça, car au lieu de se rendre chez cette grand-mère du 13e arrondissement dont il n'avait que faire, il était sorti de Paris par la porte de Charenton et vous pensez bien qu'il avait pris le large, ventre à terre à travers le bois de Vincennes et au-delà, jusqu'à ce que la nuit soit tombée. La joie d'être libre lui donnait des ailes. Il a pris un peu de repos, puis s'est remis à courir et il a couru ainsi toute la nuit sans reprendre haleine dans la campagne, par les champs et par les bois, en direction de l'est où s'étendent les vastes contrées sauvages qui sont le berceau de sa race. Et comme il a fait très attention en traversant les routes, et surtout les autoroutes, il est parvenu sain et sauf, au bout de 28 jours, dans son pays d'origine où on lui a fait fête. Ce qui n'était pas le cas de Laurette, en but au contraire à la consternation et même à la colère de tout Paris. Personne ne comprenait comment une petite fille si sage et si obéissante, premier prix de conduite à l'école, avait pu se laisser aller à une action pareille. Le directeur du jardin des plantes et le sous-secrétaire d'État aux vieilles gens l'ont convoqué, l'un après l'autre, pour lui faire des remontrances, le premier la grondant d'un loup perdu qui était d'une espèce rare, et le second, tout aussi sermonneur et furieux, disant, et même criant, qu'on ne peut pas faire ça à sa grand-mère tout de même. La presse s'est emparée de l'événement, et toute la France a pu voir à la télévision et en photo dans les journaux la petite Parisienne qui a commis une aussi grosse bêtise. Ce qui a secrètement réjoui Laurette, puisque c'est exactement ce qu'elle cherchait, devenir célèbre. Mais depuis, les gens restent inquiets. Personne, en effet, ne peut dire où est passée la bête sauvage, en sorte que chacun se demande s'il ne va pas la trouver un de ses soirs dans son garage ou dans la cabine de l'ascenseur ou sous son lit. C'est un grand tremblement général qui n'est pas prêt de finir. Et les parents de Laurette se seraient bien dispensés de tout ce battage autour de leur enfant. Le loup, par contre, pour terminer par lui, remporte, comme je le disais, un vif succès auprès de ses congénères des steppes de Sibérie et s'en trouve fort bien. Il mène grand train de vie, laissant à d'autres le soin de chasser les moutons, il a totalement perdu la main, et s'adonnant pour sa part à des activités plus calmes telles que celles de chroniqueur mondain où ses talents de conteur font merveille. Il se pavane dans les salons et les lieux à la mode, se répandant en anecdotes croustillantes sur sa vie à Paris, et il en rajoute un peu au besoin, se donnant toujours le beau rôle. On l'écoute bouche bée, on le regarde avec admiration, les belles louves se battent pour être vues à son côté. Il raconte l'histoire du petit chaperon rouge, ainsi que celle du petit chaperon bleu marine, et tous ses frères sont donc maintenant prévenus du danger qu'il y a à fréquenter les petites filles françaises. C'est pourquoi les enfants de chez nous ne rencontrent plus jamais de loups et peuvent se promener dans les bois en toute quiétude. Sous réserve, il va de soi, de prendre garde aux hommes qui pourraient y rôder, car certains hommes sont plus dangereux que les loups.
Thank you. rien que toi, moi, nous, tes 20 ans, mes 40. Si tu crois que cela me tourmente, à la vraiment mise, Élise, 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 saute-moi au cou, Élise, 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 cherche-moi des poux, enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux, Élise.
Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Blanche-Neige, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette version-là, il y a peu de chances que vous la connaissiez. Il était une fois un pays merveilleux où les femmes avaient pris leur revanche sur les hommes. Elles pouvaient enfin devenir maçons, plombiers ou champions de boxe et laisser à leur mari le soin de torcher les enfants et de repriser les chaussettes. La présidente de la République était une femme remarquable qui prônait officiellement l'égalité des sexes, disant que si on donne aux garçons les mêmes chances qu'aux filles, il n'y a pas de raison pour qu'ils ne réussissent pas tout aussi bien. Ceci dit, dans son fort intérieur, elle conservait quelques doutes sur la valeur masculine, car elle était une femme douée d'une prodigieuse intelligence et d'une personnalité supérieure. C'est d'ailleurs à cela qu'elle devait son poste de présidente, et chacune de ses apparitions en public plongeait la foule dans un grand respect à cause de la profondeur et de la subtilité de ses paroles. et comme elle ne souhaitait rien tant que d'être réélue, elle étudiait soigneusement les sondages. À la question « Suis-je la personne la plus intelligente du pays ?» 87% des gens interrogés répondent « Oui, Madame la Présidente ». À la question « Ai-je la cervelle la mieux faite ?» 78% répondent « Sans aucun doute, Madame la Présidente ». Et ainsi de suite, jusqu'au jour où le sondage répondit « Non, Madame la Présidente, vous n'êtes pas la plus intelligente car Blanche-Neige l'est autant que vous et en plus, elle est belle ». Pour un mauvais résultat, c'était un mauvais résultat et même assez désagréable. La présidente fit aussitôt venir un homme qui travaillait au palais comme bon à tout faire et lui ordonna, pleine de rage contenue, de se mettre sans délai à la recherche de Blanche-Neige pour la tuer. Ce bon à tout faire n'était pas un mauvais bougre, mais il a compris l'importance de la mission et tout le profit de carrière qu'il pourrait en tirer. Il songea à sa pauvre femme qui était directrice d'une chaîne de grands magasins et trimait dur pour élever leurs 4 enfants. Elle serait bien contente, bien fière si son petit homme se distinguait tant soit peu dans son emploi, sans compter l'augmentation de salaire à espérer en cas de réussite. Il dit donc « À vos ordres, Madame la Présidente, je vous apporterai le cœur de Blanche-Neige demain, sans faute, avant la nuit, vous pouvez compter sur moi. » Et cet homme, qui s'appelait Monsieur Catherine Le Cœur, du nom de son épouse, suivant l'usage du pays, se mit en route sans perdre une seconde. Il n'eut aucune peine à rencontrer Blanche-Neige. Elle était connue comme le loup blanc tant elle était différente des autres femmes. Elle ne portait pas de lunettes, ne fumait pas la pipe, ne jurait pas comme un charretier, ni ne passait son temps au bistrot à jouer aux cartes. Au contraire, la plus gracieuse jeune fille qui se puisse imaginer. D'une modestie confondante, gentille comme un cœur, toujours souriante, principalement avec les hommes, auxquels jamais elle n'infligeait le sentiment de leur infériorité. Bref, Blanche-Neige était unique, et tout le monde pouvait vous dire où la trouver. « Bonjour, mademoiselle Blanche-Neige, » lui dit Monsieur Le Cœur en l'abordant. « Quelle belle journée, n'est-ce pas ?» À quoi lui fut répondu avec un charmant sourire qu'effectivement c'était un très beau jour et que la belle saison semblait prendre un bon départ. Monsieur Le Cœur, encouragé par cet accueil, proposait une petite promenade. Les voilà donc, lui et Blanche-Neige, bras dessus, bras dessous, marchant dans la rue sous le soleil qui chauffait le ciel ce matin-là. Il offrit à la jeune fille un cornet de glace à la vanille, puis l'emmena faire un tour en canot sur le lac où il pensait pouvoir perpétrer son infamie à l'abri des regards. Mais à vrai dire, à mesure que passaient les quarts d'heure, la gentillesse de Blanche-Neige lui ôtait tout courage. On a dit que c'était un bon bougre. Et il se sentait de moins en moins fiero à l'idée que tout à l'heure, il lui faudrait poignarder sa victime. Pour finir, il n'y tint plus. « Mademoiselle Blanche-Neige, » avoua-t-il, « je suis chargé de vous supprimer. C'est la présidente qui l'exige en vertu de la raison d'État. Mais vous êtes si mignonne que je ne m'en sens pas la force. La situation est grave. Je vous en conjure, sauvez-vous vite et ne réapparaissez plus. » Blanche-Neige se sauva donc et Monsieur Le Cœur, de son côté, passa à la boucherie avant de rentrer au palais et acheta un cœur de veau. Il l'apporta à la présidente sur un coussin de velours, et la présidente, qui n'était pas très calée en viscère, n'y vit que du feu. Elle prit ce cœur pour celui qu'elle attendait. Elle félicita Monsieur Le Cœur et dit qu'il était un exemple pour tous, et que si tous les autres hommes mettaient autant de zèle à l'accomplissement de leur mission, la vie serait tellement plus simple. Mais sa reconnaissance se borna là, elle ne parla pas d'augmentation de salaire. Cependant, Blanche-Neige s'était enfoncée dans la forêt et avait couru droit devant elle pendant des heures, si bien que, vers le soir, elle atteignit une clairière où était une maisonnette à toit de chaume entourée d'un jardin fleuri. Blanche-Neige était morte de fatigue et de faim. Elle frappa à la porte, comptant demander asile, mais personne ne répondit. Comme le verrou n'était pas mis, elle entra. Elle alla dans la cuisine, but abondamment au robinet et mangea tout ce qu'il y avait dans le frigidaire. Après quoi, elle s'installa confortablement sur le grand canapé devant l'âtre où rougeoyaient encore quelques tisons et bientôt s'endormit. Lorsque les habitants de la maison s'en revinrent, la vue de cette personne du sexe féminin installée chez eux sur le canapé leur fit tout d'abord extrêmement peur. C'était là une petite bande d'hommes des temps anciens qui avaient fui la civilisation moderne et qui étaient venus se réfugier au milieu de cette forêt où ils vivaient hors la loi. Ils ne goûtaient guère les visites à l'improviste. Ils craignirent que Blanche-Neige ne fût quelque huissier ou inspecteur des impôts, ayant fini par retrouver leurs traces, ou quelque policier ou quoi que ce soit de plus abominable encore. Après avoir délibéré en épiant l'inconnu par le carreau, ils prirent la décision de s'approcher d'elle à pas de loup et de l'assommer d'un coup de pioche. Dieu merci, quand ils furent au-dessus d'elle, ils reconnurent Blanche-Neige, dont la renommée leur était parvenue, et la trouvant extrêmement jolie, ils se ravisèrent et allèrent ranger la pioche. Ils réveillèrent la dormeuse avec une infinie douceur, lui firent sa toilette, la course à travers bois l'avait pas mal salie, lui passèrent des habits propres et l'installèrent dans la plus belle et la plus claire de leur chambre et la gardèrent désormais avec eux. C'est ainsi que Blanche-Neige devint le chef des brigands de la forêt. Hélas, un beau jour, la présidente, informée par ses services d'espionnage, sut que Blanche-Neige n'était pas morte mais au contraire bien vivante et même en grande forme, effet de la vie en plein air, et qu'elle se cachait dans la forêt où elle avait pris la tête de ce rassemblement de messieurs lassés de la dictature des femmes et désireux de la combattre. La situation était très préoccupante. Ayant premièrement fait passer par les armes le malheureux monsieur Lecoeur, convaincu de félonie, la présidente se déguisa deuxièmement en pauvre bûcheronne et s'en vint rôder autour de la chaumière dans la forêt, faisant semblant de mettre du menu bois en fagot. Elle avisa Blanche-Neige, qui était toute seule en train de prendre un bain de soleil, allongée sur une serviette au milieu de la pelouse. Et tirant de dessous ses haillons une grosse pomme astiquée comme un sou-neuf, « Tiens, voici un fruit bien juteux que j'ai apporté pour toi, mon enfant !» dit la présidente d'un ton de bonne grand-mère. « Tu dois avoir soif sous ce soleil !» Blanche-Neige, que son gentil caractère privé de toute méfiance, accepta en remerciant. La pomme était empoisonnée. Sitôt qu'elle y eut planté les dents, elle s'endormit d'un terrible sommeil d'où ses compagnons, à leur retour de la chasse, ne purent l'attirer malgré des aspersions d'ammoniaque. Ils en conçurent un chagrin énorme et ce chagrin criait vengeance. Ils prirent les armes et ce fut la guerre civile. Elle fut sans merci, comme toutes les guerres civiles, et dura jusqu'au début de l'hiver. Au commencement, les rebelles, inférieurs en nombre, armés seulement de bâtons, eurent plutôt le dessous. Et ne durent qu'à leur héroïsme de ne pas se faire écraser. Mais bientôt, leurs muscles d'hommes prévalurent sur la stratégie des femmes, et d'autre part, chaque mari dans le pays commençait à relever la tête. Plantant là balai, brosse et serpillière, ils se ralliaient aux maquisards dont les rangs ne cessaient de grossir. Pour finir, ce fut le triomphe de la Révolution, et les hommes investirent le palais et s'emparèrent des commandes de l'État. La présidente s'enfuit par la porte de service et passa en Amérique du Sud grâce à un faux passeport et à une barbe postiche. Blanche-Neige, qui dormait toujours, fut installée au centre de la capitale, sur la Grand Place, sous un arc de triomphe érigé spécialement, et tous les citoyens et citoyennes vinrent en procession lui rendre hommage et déposer des gerbes de fleurs au pied du catafalque. Le huitième jour, un jeune homme, très beau, très élégant, se détacha de la foule et s'approcha du cercueil. Il était pâle et avait l'air d'un somnambule. Il gravit les marches du catafalque et, se penchant sur le visage de la jeune fille, il l'embrassa sur le front. Alors, comment pouvait s'y attendre? Blanche-Neige revint à elle. La fête qui fut organisée pour son mariage avec le beau jeune homme dura 6 jours et 6 nuits, au cours desquels on dansa énormément et avala encore plus de nourriture savoureuse. On entonna autant de vin fin que de chansons à boire, après quoi les jeunes mariés prirent l'avion pour Venise, où leur était retenue une suite princière au Gritti Palace Hotel. Ils revinrent de voyage de noces 3 semaines plus tard, la mine radieuse et l'épiderme bronzé. C'était l'émission Compte-gouttes enregistrée depuis la maison. Portez-vous bien et à demain.